Parti. Donc je reprends sur le lieu des morts, quelle que soit la raison du décès, le corps va redevenir poussière dans un cimetière ou non, alors que l'élément immatériel, l'âme, l'esprit, l'âme, va aller à différents endroits. Et ici, il faut un petit peu bien comprendre les choses parce qu'ils vont être envoyés dans différents endroits en fonction de deux choses. Premièrement, en fonction de la vie spirituelle de la personne, mais aussi au moment de la mort de Jésus, qui est fondamentale pour comprendre le lieu des morts. Alors, je vais d'abord parler de la première chose qui est le avant la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire depuis la naissance d'Adam et Ève, ou la création d'Adam et Ève, jusqu'à la mort de Jésus. Ce qui fait un certain nombre d'années. Tous ceux qui meurent vont aller dans ce qu'on appelle le Sheol, qui est un terme hébreu que les Grecs ont repris sur le nom de Hadès et qui veut dire en fait séjour des morts. Alors j'ai ici un petit dessin ici qui nous montre. Le Sheol avec un C ou sans C, avec des apostrophes ou pas, c'est un mot hébreu qu'on essaie de transcrire en français. Donc c'est une sorte de lieu particulier où les Juifs y distinguent deux parties. Le paradis, et c'est en Luc 23, le verset 43 qui dit ceci. Quand Jésus à la croix dit au brigand, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Ou bien, on parle d'autres mots et on appelle ça aussi le sein d'Abraham. Je mets juste comme ça là. Et ça, le sein d'Abraham, on va dire que c'est cette partie ici. L'autre partie, elle n'a pas vraiment de nom. En tout cas, on ne lui donne pas de nom. Et puis, ce séjour des morts, donc ces deux lieux distincts, le premier, on va dire d'une façon arbitraire, à gauche, ça sera le lieu où se trouvent les gens qui n'ont pas été dignes de Dieu durant l'ancienne alliance, et puis la partie droite, sein d'Abraham ou paradis, serait le lieu où seraient les justes, on appelle ça aussi le lieu des justes, par opposition à côté, où on pourrait le dire, le lieu de tourment, où se trouvent les injustes. Alors, on va essayer de définir, sans forcément vouloir jouer à Dieu, mais qui dans l'Ancien Testament se retrouverait d'un côté et qui dans l'Ancien Testament se retrouverait d'autre côté. Alors, j'aimerais peut-être des noms un peu faciles. Qui vous pensez qui serait dans le sein d'Abraham? Bien sûr, Abraham, d'accord? Mais est-ce que vous avez dans l'histoire juive, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, des noms qui seraient dignes d'être justes et de se retrouver dans le sein d'Abraham? Moïse, ok, Moïse. Je mets ici, je vais en mettre quelques-uns. Hein. Moïse, David, David, oui. Qui d'autre? Un troisième, une dame? Allez. Ruth, très bien, la grand-maman de David. Et puis, qui se trouverait plutôt à gauche dans le lieu de tourment? Jézabel. Je sais pas comment ça s'écrit, mais on va mettre comme ça, Jézabel. Qui d'autre? Saül, premier roi déchu, il était quand même, ouais, mais il a quand même fini méchamment. C'est vrai, mais pourtant on a jugé pour Jézabel. Hein. Cain, Cain, il pense à Cain, je vais le mettre. Puis un troisième peut-être, et puis un troisième, un troisième personne. C'est difficile, hein? C'est dur de jouer à Dieu, hein, quand même. Donc, Non, pas la tâche facile. Nebuchadnezzar, ça va? Akaz. Ok, voilà. Ça, c'est avant la mort de Jésus-Christ, donc dans l'ancienne alliance. On trouve ceci dans Luc 16 à 23, donc c'est vraiment ces versets qui parlent de ce lieu, le Sheol, le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Puis le verset 28, c'est pourquoi il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans celui du tourment. Donc on voit aussi que quelque part, ces deux endroits, et on voit dans l'histoire que Jésus raconte au niveau de Lazare, vous avez une séparation où c'est absolument impossible de passer d'un lieu vers l'autre lieu. Hein, vous avez déjà lu ça, on ne va pas trop y revenir. Donc c'est des lieux qui sont clos, qui sont hermétiques l'un à l'autre. Si vous voulez, on peut que rajouter par-dessus. On ne peut pas transposer les personnes d'un côté à l'autre. Ça, c'est avant la mort de Jésus. Quand Jésus va mourir, il va secouer la mort. Il est dit dans la Bible, dans Actes 2, verset 31, que, je le cite, c'est la résurrection du Christ que Dieu a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc ça veut dire que Jésus est entré dans le séjour des morts. Alors, grande question, de quel côté Jésus est-il allé? Vous hésitez? Du côté du sein d'Abraham. Et puis, il est venu dans cette partie-là pour, quelque part, donner une première récompense à ceux qui ont été justes. Et puis, il va les prendre avec lui en ressuscitant pour libérer ce lieu qui n'aura plus de raison d'être, en tout cas le sein d'Abraham, pour être avec eux ou avec lui dans les lieux célestes. Tandis que le lieu de tourment, lui, eh bien, qui était assez grand quand même, continue à se remplir, à se remplir, à se remplir. Puis après la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis le moment où il est ressuscité jusqu'à présent, eh bien, on est donc dans la nouvelle alliance. Tous ceux qui vont mourir sans être nés de nouveau en Jésus-Christ vont aussi, au niveau du lieu où ils vont se retrouver, vont aller dans le lieu de tourment ici, qui est toujours rempli des mêmes personnages qu'il y avait depuis le début. Et puis, alors que les chrétiens, eh bien, on sera tout de suite dans la présence de Dieu. Donc ce lieu va toujours rester vide. La grande question qu'on peut se poser, c'est là que les croyances font effectivement partie de notre vie et puis vont être confrontés peut-être à la dure réalité théologique, c'est un juif qui mourait et qui était juste avant la mort et la résurrection de Jésus allait dans le sein d'Abraham. On est sûr à 100% ici, mais au moment où Jésus va ressusciter et au moment où ce sein d'Abraham sera vide, finalement, un juif qui ne se convertit pas et qui meurt, où va-t-il aller? Et c'est là où la théologie, les croyances populaires s'affrontent, c'est que actuellement, pour être avec Jésus, la nouvelle alliance stipule que c'est seulement en Jésus-Christ qu'on est réconcilié avec lui, puis qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. C'est aussi plein de versets qui le disent. Donc un juif qui meurt sous la nouvelle alliance sans être converti à Jésus-Christ, à sa mort, va dans le lieu de tourment, dans le séjour des morts. Et ce n'est pas une race particulière ou un peuple particulier qui a une position particulière dans cette dimension, je dirais, du salut, mais un juif qui meurt va dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment. Alors, ce lieu, séjour des morts, j'ai ici, enfin, c'est drôle hein, d'entendre ça. Parce qu'autrement, à quoi ça servirait que Jésus vienne puis qu'il y ait une nouvelle alliance si, pour les juifs, Jésus finalement ne servirait à rien du tout s'ils étaient de toute façon sauvés. Ça voudrait dire que on supprime le sacrifice de Jésus, on atteste que sa venue sur la terre n'a servi finalement à rien du tout, puisque un juif qui continuerait à vivre sa vie comme avant n'aurait pas plus d'intérêt à être sauvé qu'avant. Et on se dit, mais non, Jésus est venu, Dieu lui-même est venu en personne pour apporter une nouvelle alliance. Si cette nouvelle alliance, on est en train de la ridiculiser finalement, de l'ignorer, eh ben, notre raison de vivre en tant que chrétien, elle est nulle. Alors soyons tous juifs finalement, puisque Jésus, la venue de Jésus n'aurait servi à rien du tout. Or, ce n'est pas le cas. Or, c'est vraiment la croix en Jésus-Christ qui fait la différence. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle alliance. C'est-à-dire que l'alliance passée devient caduque, puisqu'une nouvelle alliance meilleure est arrivée. Alors, si je reprends un petit peu le premier schéma, avant, alors je vais reprendre Caïn ici, et puis David ici, voilà, comme ça c'est bien. Avant, donc, ces deux personnages, avant la mort du Christ, ils étaient ici, ça c'est l'ancienne alliance. À la mort du Christ, ben, Caïn, il va rester. Et puis Jésus va venir, je crois qu'ils sont tous tombés, je ne sais pas où, là, ici, va descendre de la croix, va mourir, hein, va aller dans le séjour des morts, et puis va prendre avec lui toute cette partie-là, tous les justes de l'ancienne alliance, et puis va remonter au ciel avec lui, avec toutes ces personnes, dont David. Ce qui veut dire que dès la nouvelle alliance, dès la résurrection de Jésus, cet endroit va rester vide. Je vais faire un symbole civil, un symbole qui montre que c'est un ensemble vide. Tandis que ici, eh bien, il y aura toujours Caïn. Vous me permettrez si je mets Hitler. Hein? J'ai pas trop de chance de me tromper, quand même, mais pas trop. Et qui, lui, va continuer à se remplir, se remplir, se remplir, se remplir. Donc, on voit ici que c'est assez intéressant le fait que les lieux vont être complètement différents en fonction de sa dimension spirituelle. Dans l'ancienne alliance, c'était d'être juste en tant que juif. Et dans la nouvelle alliance, c'est d'être converti à Jésus-Christ, et puis qu'en fonction du temps aussi, eh bien, les gens vont d'une façon ou d'une autre dans des endroits différents. Dans Éphésiens 4, le verset 8, 9, 10, il est parlé d'un terme qui est un petit peu compliqué, quand il est dit que Jésus, il reprend le psaume 68, le verset 19, quand il dit que il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il a fait des dons aux hommes. Vous vous souvenez de ce verset? Et puis dans la Bible en latin, le mot les régions inférieures de la terre, le mot inférieur en latin, c'est le mot infernum. Ce qui fait que les gens, ils ont utilisé ce mot infernum pour parler de l'enfer, en disant que l'enfer se trouve dans les régions inférieures de la terre, donc sous nos pieds. D'ailleurs, les scientifiques n'ont-ils pas dit que le noyau terrestre est très 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 chaud? Donc c'est certainement l'enfer. Et puis des croyances comme ça, au travers d'une fausse interprétation d'un mot latin, ont donné toute une fausse image de l'enfer. On croit que l'enfer, c'est ici. Enfin, Sartre disait que l'enfer, c'est les autres. Certains disent que l'enfer, c'est sous nos pieds. La Bible dit que l'enfer, c'est un autre lieu qui n'a rien à voir avec la terre. Donc ça, c'est les lieux des morts. Il y a d'autres lieux que je n'ai pas utilisé et puis qu'on pourrait se tromper. Par exemple, la géhenne. Vous avez déjà entendu parler dans la Bible de la géhenne. Eh bien, la géhenne, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'on peut associer la géhenne quand on parle de, il sera jeté dans la géhenne où il y aura des cris et des grincements de dents? Vous vous souvenez de ça? Eh bien, cette géhenne, c'est pas le séjour des morts. La géhenne, c'est la seconde mort. C'est finalement l'enfer, dans le sens après le jugement dernier, ce lieu où iront les gens qui ne seront pas réconciliés avec Dieu, qui n'auront pas été jugés aptes et de rester avec lui. Eh bien, cette géhenne, c'est l'enfer, c'est la seconde mort. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement la mort ou le séjour des morts, mais ce n'est pas du tout ça, c'est la seconde mort. Parce qu'à un moment donné, le séjour des morts, il va disparaître. Il devra rendre les morts qui sont en lui, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Et puis, ça sera, mettons, vide, définitivement. Alors, en tout cas, les deux parties. Ce mot géhenne est utilisé donc pour pouvoir représenter cette seconde mort. Et on confond souvent, puis c'est important de ne pas confondre. Une fois qu'on est mort, on est mort. Donc on est dans un lieu intermédiaire, le lieu des morts qui peut être différent. Et puis après, il y aura une résurrection. Alors la bonne nouvelle, ou la mauvaise, ça dépend, c'est qu'on va tous ressusciter. Quelle que soit notre foi, quel que soit le moment dans l'histoire où on est né, on va tous ressusciter corporellement. Puisque l'âme et l'esprit n'ont pas besoin de ressusciter, puisqu'elles sont éternelles et puis qu'elles seront dans ce lieu qu'on appelle le lieu des morts avec ses différentes explications. Alors, sachez que nous allons tous ressusciter, c'est vraiment certain. Quand on parle de la résurrection, on parle souvent des chrétiens, mais on parle aussi des païens, on parle aussi des gens qui sont sans Dieu. La Bible l'enseigne la continuité de la vie après la mort. Ainsi qu'une évidence d'une résurrection corporelle éternelle. Au moment défini par Dieu lui-même, on trouve ça dans Daniel ou dans Jean 5, le verset 28-29, qui nous dit ceci. Ne vous étonnez pas de ceci, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous ceux, hein, donc pas forcément les chrétiens ou les juifs, sont dans les sépulcres, entendant sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc il y a vraiment une réalité de la résurrection. Le nous. Tout le monde, tous. Alors, tout à fait. Alors, c'est vrai que Adam et Ève, on a de la difficulté à peut-être à retrouver ces restes, mais corporellement, notre corps qui redevient poussière, donc ça veut dire qu'il va finir par disparaître, il est toujours là dans la pensée de Dieu et il ressuscitera, quel que soit le temps où on est mort, même s'il y a des milliers d'années. Parce que Dieu nous a créé corps, âme et esprit, et puis cette résurrection, ben, ça sera justement de pouvoir revenir. Cette fois-ci, ce n'est plus avec un corps normal comme on l'a maintenant, mais un corps transformé, un corps qui aura toujours une partie de l'ancien, mais qui aura quelque chose de neuf, de nouveau, d'inédit, qui sera associé à notre nouveau corps de résurrection. Le Nouveau Testament, il parle de résurrection, mais il faut faire attention parce que des fois, on se trompe au niveau du mot résurrection. Donc, le mot résurrection, dans le premier sens, c'est ressuscité pour toujours. Et en ce sens-là, Jésus, c'est le seul qui soit ressuscité. Il y a eu d'autres résurrections dans le Nouveau Testament, et qu'on appelle aussi résurrection, qu'on peut appeler également réanimation, hein, où on remet l'âme dans la personne. Et puis, ces personnes vont décéder quelques années ou quelques dizaines d'années après, et puis vont de nouveau mourir. Quand on entend les témoignages de résurrection dans des hôpitaux ou bien dans des lieux particuliers où on a prié pour qu'une personne ressuscite, elle ressuscite. Et c'est possible, hein, puisque Jésus disait de lui-même, quand il envoyait ses disciples en Matthieu 9, il a dit, allez, purifiez les lépreux, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Donc c'est quelque chose qui nous est un petit peu étranger, hein, mais nous avons cette autorité aussi de prier pour des morts, pas prier les morts, mais prier pour des morts, pour qu'ils ressuscitent. Et ça, c'est une partie aussi du mandat que Jésus nous a donné, qu'il faut aussi peut-être mettre dans le coin de notre tête, puis pas trop vite l'oublier. 5 résurrections qu'on va appeler alors temporaires ont lieu dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez à l'esprit ces 5 personnes qui sont ressuscitées? Lazare, tout à fait, le frère de Marthe et Marie. Il y en a d'autres? Le fils de la veuve de Naïn. Très bien. C'est le deuxième. La fille de Jaïrus. J'ai passé mes notes avant, pour ça qu'elle sait. Il y a encore 2. Allez, je vous aide. Le premier, c'est un jeune homme, puis le deuxième, c'est une dame. Voilà, celui qui est tombé, qui s'appelait comment? Un nom que je ne vous conseille pas d'appeler votre fils comme ça. Eutychus. Eutychus. Et puis le dernier, c'est une dame qui est ressuscitée, qui faisait de bonnes choses. Puis tout le monde louait les merveilles, pardon? Non, c'est Dorcas. Dorcas. C'est les 5 résurrections corporelles temporaires. Mais il est aussi dit, et ça, j'espère que vous allez vérifier si vous ne me croyez pas, que quand Jésus il est mort, le monde des morts a tellement été ébranlé. Imaginez, Dieu, le prince de la vie, meurt. Et ça a totalement affolé le séjour des morts. Ils étaient complètement, mais sans dessus dessous, Jésus, Dieu lui-même venait dans cet endroit, et les morts récents qui ont précédé la mort de Jésus sont ressuscités. Ça veut dire qu'ils sont sortis de leur tombeau et puis qu'ils sont sortis dans la ville. Vous me croyez? Ah, où est-ce que c'est noté? Alors on va regarder par exemple en Matthieu 27. Tiens, Matthieu 27. Et nous allons lire ensemble en Matthieu 27, le verset 52, pour tous ceux qui pensent que je dis des bêtises. Donc au moment où Jésus meurt, les sépulcres s'ouvrirent, imaginez, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 52, Matthieu 27, 52. Donc il y a un tel bouleversement dans le monde spirituel que ça a tellement effrayé la mort qu'elle a dû lâcher ses dernières victimes. Et puis ces gens sont, bon, c'était bien sûr pas ceux qui étaient nés, morts il y a 20 ans qui sont ressuscités, hein, ceux qui avaient toujours leur corps physique en bon état, je pense, de quelques jours, ben, tous ceux ils sont ressuscités. C'est impressionnant, hein. Oui. Et puis le corps des saints, oui, les saints. Et puis bien sûr, ça, c'est des résurrections temporaires, on comprend bien. Hein. Or, celle de Jésus, elle est rien du tout temporaire, elle est éternelle. Jésus n'est pas mort de nouveau, mais il est, quand il est ressuscité pour l'éternité. C'est la garantie de notre résurrection, pas d'une résurrection temporaire, ou que si on meurt, puis qu'on prie pour nous, bon, on va ressusciter, mais d'une résurrection définitive, éternelle. Tant Jésus que les apôtres ont parlé de cette résurrection, à maintes et maintes reprises, et l'ont défini, mes amis, comme étant le point central de notre foi. La résurrection, c'est la base même de notre christianisme. C'est la base de notre foi. Et on lit ceci dans 1 Corinthiens 15. Et dans 1 Corinthiens 15, on trouve quelques versets que je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Et puis, c'est bien de se rendre compte qu'au niveau de l'eschatologie personnelle, eh bien, cette résurrection, ce n'est pas simplement un fait, mais c'est la base de notre foi. En Corinthiens 15, 12, Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc c'est impressionnant ça. Ça veut dire, Paul, il devait dire 15 fois le mot résurrection, ressuscité en quelques versets. Il les a tout condensés là. La base de notre foi, c'est la résurrection de Jésus. Et si j'y crois pas, je ne peux pas dire que je suis chrétien. Si j'y crois pas, même si je crois à tout le reste, je suis malheureux parce que j'ai aucune espérance. Et puis ma vie, c'est que celle d'un animal. Finalement, je suis dans l'annihilisme. Une fois que je meurs, je meurs. Voilà. Donc je peux faire ce que je veux en tant que chrétien, puisque Christ n'est pas ressuscité, je ne vais pas non plus ressusciter. Et puis je resterai mort. Et puis je profite de la vie. Et puis c'est pas du tout ça. Il y a une dimension d'espérance. Il y a une dimension de bonheur. Je crois qu'on ne devrait pas avoir peur de la mort. C'est la grande différence. Un chrétien, il n'a pas peur de la mort, parce que la mort a été vaincue à la croix en Jésus-Christ. Un chrétien, s'il a peur, c'est qu'il a peur de mourir. C'est le fait de passer de la mort ou de la vie à la mort qui fait peur. La mort en tant qu'elle, elle ne nous fait pas peur. Vous comprenez la différence? C'est l'action, c'est le moment par lequel on va passer. C'est comme, j'ai pas peur du dentiste. D'ailleurs, chaque fois que je vois, je lui serre la main. C'est la preuve que j'ai pas peur. Mais quand il me fraise, là, j'ai un petit peu peur. Quand il m'arrache une dent, là, j'ai peur. C'est le moment où il agit sur moi qui me fait peur. Ou qu'il me pique avec sa seringue. C'est pas lui qui me fait peur. Et ben, c'est la même chose avec la mort. On n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur de la mort. On a peur de mourir. Puis on a peur de mourir dans des circonstances difficiles. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est une peur légitime, une peur émotionnelle, une peur qui est naturelle, qui est normale. Mais la mort, c'est une réalité spirituelle qui ne nous fait plus peur. Vous voyez la différence? Et c'est pour ça qu'on est des vainqueurs, qu'on est plus que vainqueurs, et puis que la résurrection, c'est la base de notre foi chrétienne. Parce que la résurrection, c'est la victoire de Jésus sur la mort dans notre propre vie. Amen. Bien, allons un peu plus loin. Est-ce que vous êtes déjà ressuscité? C'est une bonne question, effectivement. Est-ce que je suis alors pour ressusciter, vous me direz, il faut que je meure. Et je ne suis pas encore mort physiquement, donc voilà, je ne suis pas encore ressuscité physiquement, mais je suis ressuscité spirituellement parce qu'à la croix, je suis mort à ma vie passée. Et le baptême est une dimension où je passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et ce passage s'appelle résurrection. Ressuscité avec Christ dans les lieux célestes. Vous connaissez ce petit chant? Ben, ce n'est pas une fausse théologie, c'est la vérité. Je suis ressuscité avec Christ. Quand Christ est ressuscité, eh bien, je suis ressuscité avec lui. Ça veut dire que actuellement, j'ai une vie éternelle, une vie spirituelle éternelle. Ce que ceux qui sont toujours morts spirituellement n'ont pas. Les morts spirituels, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, ne sont pas encore ressuscités spirituellement. Mais nous, nous sommes ressuscités déjà. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Ça veut dire qu'on n'est plus de ce monde de mort, mais on est dans le monde de la vie, on est le monde de la résurrection. Et quand je regarde autour de moi, je vois que des personnes ressuscitées. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est déjà un point positif dans ma vie. C'est je suis une personne qui est ressuscitée à la croix. Jésus a payé pour moi. Je suis mort à mon péché et je suis ressuscité en nouveauté de vie. Paul, il le dit presque toutes ses pages pour montrer aux chrétiens quelle importance ça a d'être un chrétien et quel bonheur on peut comprendre, on peut vivre, on peut développer en disant qu'on est chrétien, on est ressuscité avec Christ. Mais j'aimerais aussi parler de la résurrection du corps. Alors, quand Christ reviendra chercher son Église, on appelle ça l'enlèvement. Donc l'enlèvement, c'est un moment dans l'histoire que Dieu a choisi, que je ne connais pas, que nous ne connaissons pas, qu'aucune prophétie du monde, même des gens les plus chrétiens, ne va pouvoir dire le moment de cet enlèvement. Seul Dieu sait le temps du retour de Jésus. Cet enlèvement sera aussi un moment d'une résurrection. Ça veut dire que le corps du croyant, qui sera, comme le disait Ruth, peut-être dans un état lamentable, presque poussière invisible, ou alors physiquement encore vivant, hein, comme le vôtre, comme le mien, eh bien, Paul va parler de ce moment en 1 Corinthiens 15 où le corps du croyant va être modifié. Alors, il y aura une dimension de la résurrection, c'est-à-dire que les morts en Christ vont ressusciter, quel que soit le moment de leur mort. On va peut-être parler d'un des premiers martyrs qui était l'apôtre Jacques, le frère de Jean, qui a été très rapidement décapité par l'autorité romaine en Israël. Et puis lui va ressusciter au moment où Jésus va revenir chercher son Église. Et puis les morts vont ressusciter, et puis que va faire l'Église, c'est-à-dire les gens convertis sur terre? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est un moment assez particulier, unique dans l'histoire de l'humanité, où Christ va revenir chercher son Église. Les morts en Christ vont ressusciter, et nous, on est vivants. Donc, finalement, si on est vivant, on n'a pas besoin de ressusciter. Eh bien, on va passer d'une façon automatique, presque atomique, hein, en un instant. Et le mot en un instant, c'était le mot grec qui donne le mot atome. Puis en ce moment, atome, c'est qu'on ne peut pas diviser. On ne savait pas en ce temps-là qu'on pouvait pas le diviser. On pouvait un petit peu plus le diviser, mais un moment très 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 court, les gens qui seront sur cette terre en tant que vivants seront transformés avec un nouveau corps. C'est-à-dire qu'ils vont mourir et puis ils vont ressusciter instantanément, pour faire comme les autres chrétiens qui étaient morts en Christ, qui vont ressusciter aussi. Donc ce sera un temps de résurrection de toute l'Église. Oui. Oui. Alors c'est intéressant. Je reviendrai après au niveau des temps des résurrections pour les justes qui étaient dans le sein d'Abraham. C'est une très bonne question. Mais j'arrive, j'en vais continuer. Donc, le corps des chrétiens, alors, en Corinthiens 15, il est intéressant parce qu'il nous montre vraiment tout le changement de cette transformation. Alors, on va parler du corps du croyant. Et puis, si on lit à partir du verset 15, du chapitre 15, verset 44, il est dit ceci. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps... » 42, pardon, est-il semé corruptible, hein, donc soumis à la corruption, il va ressusciter incorruptible. Donc ça, c'est autant pour le corps des gens qui sont morts, où on aura un nouveau corps. Quand Jésus est ressuscité, on ne l'a pas reconnu. Vous avez vu ça, hein, Thomas disait, il faut que je le croie, il faut que je le touche, tout ça. Et puis quand il apparaissait, on ne le reconnaissait pas. Puis il dit, c'est moi. Ah, c'est toi, si c'est toi, eh bien oui, c'était lui. Et quelque part, le corps ressuscité, il n'est pas tout à fait la même chose que le corps physique. Il semblerait, mais ça, ce n'est pas dogmatique, mais qu'on aurait un corps d'adulte d'une trentaine d'années. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Hein. Mais les enfants ne vont pas ressusciter un enfant. Les enfants qui ont été avortés, vous voyez, ils ne vont pas ressusciter avortés. Enfin, vous comprenez, hein. Les gens vieux avec trois dents en moins et puis deux mains en moins, ils vont ressusciter avec tous leurs membres. Donc, ce sera une résurrection digne. Vous comprenez? On priait quand on était jeune pour une dame qui avait le cancer, qu'on pensait qu'elle est ressuscitée. Et puis, elle avait donc le cancer. Puis, elle était persuadée que si elle ressuscitait, son cancer serait guéri. Donc, elle n'est pas ressuscitée malade pour quelques jours, puis après remourir du cancer, mais qu'elle est ressuscitée guérie. Puis, cette dimension aussi que le corps incorruptible sera tout à fait différent de ce corps corruptible. En continuant, il ressuscite. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de formes, de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, on voit que finalement, on va devenir comme un être céleste. De terrestre, on va passer à un corps spirituel, à un corps céleste, pour habiter pour l'éternité avec Dieu. Et Dieu, nous le dit la parole, est esprit. Puis le corps de l'incroyant, il va aussi ressusciter. Alors, il ne va pas ressusciter glorieux, incorruptible, etc. Hein, parce que ça, c'est l'apanage du croyant. Mais pourtant, il va quand même ressusciter spirituel, hein, puisque le corps physique va être transformé. On pense que dans les tourments, ben, il y aura le corps aussi qui sera atteint. Et puis, il sera physique, comme le corps du croyant, mais non terrestre, c'est-à-dire qu'il sera plus soumis à manger, à boire, etc., aux réalités terrestres. Et on trouve ça dans Matthieu 20, 10, 28. Et Matthieu 10, 28 dit ceci: Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc on voit que l'élément corruptible, l'élément du corps, l'élément matériel est aussi dans la géhenne, c'est-à-dire dans cette deuxième mort. Maintenant, pour répondre un petit peu à la question de Johan, on va parler du temps des résurrections. Et puis, quand est-ce que les gens vont ressusciter finalement? C'est ça aussi, hein? Alors, il y aura une première résurrection. Alors, on va déjà considérer la résurrection de Jésus, qui était la résurrection, qui a donné l'espérance au monde entier, finalement, à l'humanité. Cette première résurrection va avoir lieu à l'enlèvement de l'Église. Et puis, la deuxième résurrection, puisqu'il y aura après ou pendant le jugement dernier, où tout le monde va ressusciter. Alors, d'abord, lors de l'enlèvement de l'Église. Les morts en Christ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont ressusciter lors de l'enlèvement de l'Église. En trouvant ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ça, on n'a pas l'habitude d'entendre, hein, on le lit de temps en temps, mais c'est en Corinthiens. Pardon, 1 Thessaloniciens 4, 16, qui dit ceci, et puis il dit aussi ceci en 1 Corinthiens 15, cette fois-ci, verset 23, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc on va lier le retour de Jésus-Christ pour l'instant à l'enlèvement. On verra un petit peu quelles sont les petites particularités de ce temps-là. Et puis chacun en son rang, ça veut dire d'abord seulement Jésus. Parce qu'il y a une doctrine catholique, encore une fois, qui dit que Marie est ressuscitée, qu'elle est reine des cieux, et qu'elle est ressuscitée avant tout le monde, et puis qu'elle peut intercéder, donc on peut la prier, puisque c'est la mère de Dieu, et puis qu'on peut faire plein de choses vis-à-vis de Marie, puisque finalement, elle est presque au rang de Dieu. Et parce qu'elle est ressuscitée. Or, la Bible dit très bien en Corinthiens 15, chacun en son rang. Christ comme prémisse. Prémisse, ça veut dire le début, comme le premier qui ressuscitait. Et si Marie avait dû ressusciter, on l'aurait mis là. Effectivement, hein, c'était d'actualité, c'était contemporain. Or, elle n'y est pas. Or, elle n'est pas ressuscitée. Mais il y a une ambiguïté parce qu'à Jérusalem, il y a aussi le tombeau de Marie. Donc, on voit que d'abord, ils ont cru qu'elle était morte, puis après, on a dit qu'elle était ressuscitée. Et puis finalement, il y a toujours son tombeau, et puis où on croit qu'il y a toujours son corps. Donc c'est un petit peu ambigu dans l'Église catholique, mais c'est comme ça. Donc, que Jésus en premier, puis après nous, lors de l'enlèvement de l'Église. Et puis, donc je mets encore ensemble l'enlèvement de l'Église avec le retour de Jésus. On verra un petit peu plus précisément ce qui se passe. L'Église qui est enlevée. Et puis, juste avant le retour de Jésus-Christ sur terre, parce que quand on parle du retour de Jésus, on parle de deux choses différentes. On dit quand Jésus reviendra. Alors, quand Jésus revient sur la terre, c'est pour établir son règne. L'enlèvement, c'est pas le retour de Jésus. Selon, on verra aussi la prochaine fois au niveau de la tribulation. Selon les uns et les autres, certains évangéliques, il y a un temps de 7 ans, de 3 ans et demi ou de 0 jour entre le moment où l'Église est enlevée et où Jésus revient sur la terre. Donc pour l'instant, votre théologie, elle est bonne, faut la garder. On verra si elle passe à l'épreuve des versets bibliques la prochaine fois. Mais on va considérer pour l'instant que le retour de Jésus sur la terre pour y régner coïncide avec l'enlèvement. Après, on verra les subtilités. Eh bien, ce temps-là, les saints de l'Ancienne Alliance, ainsi que les chrétiens morts pendant ce temps de tribulation, hein, qu'on retrouve en Apocalypse 19 et 20, où il est dit que, ils auront part à la première résurrection, eh bien, ces gens vont ressusciter. Alors, si je résume un petit peu tous ceux qui vont ressusciter dans cette première résurrection, vous avez tous les chrétiens depuis la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à l'enlèvement. Et puis dans cette deuxième partie de cette première résurrection, vous avez les saints que Jésus avait repris du sein d'Abraham à sa mort, plus tous les chrétiens qui sont morts pendant le temps de tribulation qui peut durer entre 7 années et demie ou 3 ans selon les uns et les autres. Ce qui veut dire que cette double population de chrétiens et de juifs vont ressusciter avec Christ. Et puis, quand Jésus reviendra sur la terre pour établir son règne, eh bien, il y aura et les juifs de l'Ancienne Alliance et les chrétiens qui vont revenir régner avec Dieu, donc Jésus. D'ailleurs, quand on lit le chapitre 4, 5, 6 de l'Apocalypse, on voit justement qu'il y a autant les Juifs que les chrétiens qui adorent dans le temple de Dieu, l'agneau de Dieu, qui montre qu'il y a vraiment ces deux populations différentes, les Juifs de l'Ancienne Alliance, qui étaient considérés comme justes, et puis les chrétiens de la Nouvelle Alliance jusqu'au retour de Jésus. Ça, c'est la première alliance. Et je vais développer ça la semaine prochaine, enfin, la prochaine fois. Ceux qui douteraient un petit peu de ces chrétiens qui vont ressusciter après la tribulation, eh bien, je vous propose d'ouvrir la Bible dans Apocalypse 20, au verset 4, où il est dit ceci: Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, c'est la première résurrection, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc on voit ce temps où les chrétiens ont été en mauvaise posture durant le temps de la tribulation et puis qui vont aussi ressusciter. Je fais une petite parenthèse au niveau de cette marque de la bête sur le front et sur la main. Donc, de nouveau, il y a pas mal de croyances qui parlent de dire, ben voilà, maintenant, les puces, on va les mettre sur le front, et puis, enfin, sur la main, puis ceux qui sont manchots, ben, on va les mettre sur le front, parce que c'est les deux parties visibles du corps qui peuvent être directement scannées ou sans problème, ou pas du tout cachées. Voilà, pour l'instant, on en est qu'à des suppositions qui sont purement des croyances de bistrot. D'accord? On va peut-être être étonné de savoir ce que c'est. Mais c'est comme toujours, le chrétien, il fait avec ce qu'il a, ou ce qu'il croit avoir, et puis il va dire, ben voilà, ceux qui se font implanter. D'ailleurs, maintenant, dans les discothèques, on peut avoir une puce intégrée ici, et puis on passe, et puis c'est directement débité de notre compte, et puis quand on fait une consommation, ben c'est directement débité, parce que d'une puce, on dit qu'aux États-Unis, il y a déjà des prototypes de puces qu'on peut mettre sous la main, il y a déjà des gens, puis ils sont trompés, ils ont mis déjà ça avant qu'ils devaient faire le vrai lancement, et puis il y a des gens qui se baladent déjà, et sur le front et tout ça. Pour l'instant, moi, j'ai rien vu de cela, j'ai pourtant cherché un petit peu sur Internet, puis je trouve que parfois, on est en train de plus fabuler sur des choses qui semblent extraordinaires. En tout cas, moi, je ne veux jamais faire aller chez le médecin pour me faire un petit truc, jamais, parce que j'aurai la marque de la bête, etc. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Caïn, on ne sait pas ce que c'était la marque que Dieu avait fait sur son front. On pense que c'était une lettre, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, avant de dire d'une façon dogmatique, c'est-à-dire certaine, que le signe sur le front et sur la main, ça sera un code qu'on pourra lire, ben, pour l'instant, on ne sait pas. On dit des fois la meilleure réponse est je ne sais pas. Il faut être suffisamment humble pour dire je ne sais pas, que pour sortir des croyances qui sont que des croyances, mais qui ne sont pas forcément la vérité. Vous êtes d'accord? Je vais peut-être un petit peu de démystifier les choses. Désolé pour ceux qui y croyaient, mais pour moi, je trouve qu'il faut peut-être penser à autre chose qu'à inventer, à chercher quel sera le futur des versets. Hein, on recommence dans l'excès et puis on fait plus peur aux gens. Si en évangélisant quelqu'un dit oh, mais tu vas avoir la marque de la bête, tu seras perdu pour l'éternité, tu pourras ni plus acheter ni vendre, en tout cas. Oui, tout à fait. Mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, ce n'est pas votre carte bancaire imprimée en vous. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. On a des idées, on fabule parce qu'on essaie de comprendre en fonction du moment, mais ce n'est pas en fonction du moment et des arguments qu'on a au jour de la disposition qu'on peut argumenter sur les textes de l'Apocalypse. C'est compliqué, oui? Oui, je pense qu'au moment vécu, au moment voulu, on le verra. Enfin, quand on sera enlevé, je pense qu'on le verra. Quand on ne sera pas enlevé, je pense qu'on le verra aussi. Moi, j'ai eu peur des fois. Ouf, je ne suis pas enlevé. Ou bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Seigneur, si tu revenais, est-ce que je serais enlevé? Vous vous êtes posé déjà cette question? Tout le temps, c'est ça? Une fois, ma fille est arrivée, il n'y avait personne dans la maison. C'est des questions qui sont intelligentes. Enfin, on se dit, mais voilà, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Est-ce que j'ai besoin? Même moi, je me suis posé la question. Oups. Alors, on le verra finalement. Puis il y a des choses aussi qui vont se passer après l'enlèvement de l'Église, puis qu'on sera plus du tout en mesure de pouvoir comprendre parce qu'on sera plus là, simplement. Oui, il y a des signes des temps, tout à fait. Il y a des signes des temps, mais les signes des temps, c'est quoi? C'est le monde sera évangélisé. Tout le monde sera évangélisé. Donc ça veut dire que c'est Matthieu 24 qui en parle. Hein. Quand il y aura des bruits de guerre, quand il y aura des nations qui vont s'élever contre d'autres nations, sachez que le retour de Jésus est proche. Les tremblements de terre, Joël parle de feu hein, dans le ciel. Quelque part, ce sont des signes qui sont évidents. Donc on rajoute le réchauffement de la planète et puis on a tout compris. Mais pour moi, les signes du retour de Jésus, ce sont des signes spirituels. Ça veut dire l'Église s'est mobilisée pour évangéliser le monde entier, toutes les ethnies. Alors viendra la fin. Et je pense que les signes qu'on a voir, ce n'est pas d'abord dans la nature, mais c'est d'abord dans l'Église. Savoir si l'Église, elle joue son rôle, si elle fait ce que Christ demande. Et si je me renferme sur moi-même et puis que je veux pas aller toucher les ethnies, ben quelque part, est-ce que je peux dire que j'empêche Jésus de revenir? tout cas, c'est ce qui semble que 2 Pierre 3 disent. Ils disent Dieu n'a pas oublié sa promesse, il va revenir, mais il attend. Puis qu'est-ce qu'il attend? Il attend que tous soient sauvés. Puis ça, c'est plus sa partie, c'est notre partie d'annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés. Quelque part, on est aussi responsable. Et puis pour moi, le premier signe, à part les bruits de guerre, les signes dans les cieux et tout ça, c'est la responsabilité de l'Église, c'est l'engagement de l'Église dans une dimension sociale et d'évangélisation. Si on n'a pas ça, ben quelque part, on n'a pas la perspective du retour de Jésus en vue. Mais rassurez-vous, depuis le début du XXe siècle, l'Église n'a jamais été aussi militante, n'a jamais été aussi sociale, donc elle n'a jamais été aussi portée vers son prochain et vers l'évangélisation. Alors, ce temps des résurrections, il y a une deuxième résurrection, un deuxième temps de résurrection qui aura lieu, lui, au jugement dernier. Donc, on parlera du millénium si on y croit ou si on n'y croit pas, mais disons qu'on y croit, hein, on va être fort en a priori. Donc, après les 1000 ans de règne sur la terre, quand Jésus reviendra, qu'on appelle le millénium, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, la fin du monde sera décrétée et donc le monde va disparaître, ce monde va disparaître. Les témoins de Jéhovah disent que ce monde ne va pas disparaître, mais qu'eux seuls vont rester sur la terre, puis que tous les autres vont disparaître, mais pas eux. Mais la Bible elle dit bien que ce monde va disparaître, le ciel et la terre passeront, d'accord? C'est ce que Jésus a bien dit. Eh bien, quand la fin du monde sera décrétée, eh bien, tous les morts qui restent vont ressusciter. Puis ces morts, alors de nouveau, on n'est plus dans un temps de salut, dans le temps entre la mort de Jésus-Christ et l'enlèvement ou son retour, mais on a un temps qui va ouvrir la perspective de toute l'humanité, c'est-à-dire depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde, ce qui fait quand même pas mal d'années. Et puis il y aura deux catégories de personnes qui vont être confrontées à ce jugement. D'abord les personnes que Dieu va juger dignes, donc qui ne seront pas convertis du temps de l'Église, c'est-à-dire du temps entre la mort de Jésus et puis l'enlèvement de l'Église, qui n'auront pas été jugés dignes d'être justes et qui étaient dans le sein d'Abraham. Donc il y aura d'autres gens qui vont être avec Dieu pour l'éternité. Donc ils ne se seront ni au niveau de la loi juive dans l'Ancienne Alliance, ni au niveau du salut en Jésus-Christ pendant le temps de l'Église. Ces hommes dignes seront ceux qui se seront convertis pendant le millénium et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Et puis les autres seront ceux qui n'ont jamais connu l'Évangile et qui seront jugés selon leurs œuvres, selon leur motivation. Imaginez un pygmée qui vivait sa vie en étant animiste, en croyant en ses dieux, en priant ses dieux, mais qui a toujours vécu d'une façon intègre, eh bien, lui sera jugé non pas selon la loi juive ou selon l'évangile, mais sera jugé selon ses propres œuvres, selon la façon dont il aura dirigé sa vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et puis, malheureusement, donc il y aura deux sortes de conversions, parce qu'on ne pourra pas dire que quand Jésus reviendra, le temps de l'Église recommencera, ça sera nouveau, puisque Christ régnera sur la terre pendant 1000 ans. Donc les Juifs et les chrétiens qui reviendront, nous, on sera de nouveau sur la terre, puisqu'on sera vraiment ressuscité, donc on pourra de nouveau régner sur la terre avec le Christ. Et puis, il y aura des gens qui vont se convertir. On ne saura pas comment, on ne connaît pas encore la façon dont ils vont se tourner vers Dieu, mais on saura qu'ils ont leur choix. Ils auront ce choix, d'autant plus que Satan sera lié pendant 1000 ans, et puis ces gens auront la possibilité de pouvoir montrer au travers de leur personne s'ils veulent suivre ou non Christ en fonction de leur libre arbitre, et ceux qui le suivront, eh bien, auront leur nom inscrit dans le livre de vie comme nous. Et puis tous les autres, ça veut dire ceux qui se trouvaient dans le séjour des morts avant la mort de Jésus-Christ, tous ceux qui sont morts avant l'enlèvement de l'Église, sauf les chrétiens, c'est-à-dire tous les gens, s'il y a des gens que vous connaissez qui sont morts sans Christ, puis que voilà, ils vont ressusciter, tous les juifs après la mort de Jésus, sont aussi dans ce lieu d'attente, qui vont aussi ressusciter. Tous ceux qui sont morts sans Christ après l'enlèvement de l'Église jusqu'à la fin du millénium. Donc ça sera vraiment tout le monde. Et puis, on se rend compte donc que cette deuxième résurrection va concerner essentiellement ceux qui n'auront pas été justes durant la vie de l'humanité, et puis aussi, pour pas non plus tricher, ceux qui se seront convertis pendant le millénium, et puis ceux qui ont vécu une vie digne d'être humain, avec une morale qui était adaptée. Et il se pourrait qu'on ait des cannibales à nos côtés pour l'éternité, parce qu'ils ont vécu dans une tribu de cannibales, et puis ils ont mangé des hommes, parce que, mais ils ont gardé les lois de leur. De leur tribu d'une façon juste et honnête. Et puis, ils seront jugés sur leurs actions. Donc voilà, donc on sera étonné de voir qui sera là, qui sera pas là. Mais encore une fois, ce n'est pas à nous à dire, toi tu es blanc, toi tu es noir, toi tu seras sauvé, toi tu seras perdu, toi tu seras pour l'éternité avec Dieu ou sans l'éternité avec Dieu. C'est vraiment notre responsabilité de regarder d'abord à notre propre vie et puis de laisser Dieu décider pour les autres. Ça, c'est vraiment important. Oui? Selon leur conscience et les actes qu'ils auront commis, parce qu'ils n'auront pas eu accès à l'évangile, donc ils n'auront pas pu savoir ce que Christ demandait d'eux. Ben, simplement des pays reculés, de tout le temps, depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à maintenant, qui n'ont pas pu qui n'ont pas été touchés par l'ancienne alliance du temps de l'ancienne alliance, qui n'ont pas été touchés, rencontrés par des chrétiens qui n'ont jamais entendu l'évangile, ben ces gens, ils seront pas perdus parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile, mais ils seront jugés selon leur conscience et selon les actes qu'ils auront commis. Ce qui est juste, finalement. Voilà, c'était l'intermède canine. Non, il n'y a pas de souci. Je termine par, si je retrouve ma page. Je me suis dit, je vais prendre toutes mes pages, et puis voilà que je me trouve. Voilà. Bien. Donc, on a compris maintenant un petit peu la chronologie. Et c'est là que je vais prendre mon grand pavé, puis je vais le lancer dans cette belle mer de tranquillité, pour vous dire. Toutefois, tout n'est pas si simple. On aurait aimé. Mais les textes sont tellement complexes, sont tellement obscurs que c'est difficile. J'aimerais juste vous dire une petite chose qui va peut-être vous amuser, mais les Juifs connaissaient l'Ancien Testament quasiment par cœur. Ils attendaient le Messie avec intérêt depuis des siècles et des siècles. Ils lisaient toutes les semaines tous les passages qui considéraient le Messie, parce que c'était leur espérance. Donc tous les Juifs avaient les yeux rivés sur la Bible, la Torah, et puis attendaient, en levant les yeux, attendaient la venue de leur Messie. Vous êtes d'accord? Quand il est arrivé, Jésus, ils ont rien vu. Ils n'ont pas reconnu. Aucun. C'est Jésus qui a dû aller vers eux, qui les a choisis, puis qui les a enseignés. Il y a l'épisode de Nicodème, etc. Mais les Juifs, même les plus érudits, qui connaissaient la Torah, qui connaissaient par cœur les textes de la venue du Messie, ne l'ont pas reconnu. Faisons attention en lisant l'Apocalypse ou les évangiles ou les lettres, les épîtres, de pas. On n'est pas sûr d'être pas comme des juifs. C'est-à-dire que on va lire les textes, puis finalement, quand les choses vont arriver, on ne va peut-être pas les reconnaître parce qu'on lit mal. Parce qu'on pense, parce qu'on a des croyances qui ne correspondent pas à ce que Dieu a envie de faire. Et si les juifs avaient des croyances qui ne correspondaient pas à ce que Dieu voulait faire, les juifs attendaient un libérateur guerrier qui allait booster les Romains hors de leur pays, puis leur donner une vraie dignité de pays. Puis Jésus venait pour révolutionner le monde, non pas avec la guerre, mais avec l'amour, avec la paix, avec la relation avec Dieu. Donc ils n'ont pas reconnu, c'était impressionnant. Puis nous, quand on lit la Bible pour savoir quand il reviendra, le deuxième avènement, le retour de Jésus, eh ben, faisons attention de ne pas lire avec ces mêmes lunettes qu'eux avaient, c'est-à-dire de croire des choses, puis finalement de passer à côté de l'essentiel. Donc c'est pour ça qu'au début, c'est très simpliste. Hein, voilà, les morts, tout ça, ils ressuscitent comme ça. Mais ce n'est pas si simple. Parce que si on veut être biblique, il faut prendre toute la Bible, puis pas seulement les versets qui nous intéressent. Or, il y a des textes qui compliquent un petit peu cette chronologie, je dirais un petit peu facile, puis qui nous font comprendre que les choses, un, d'abord, elles ne sont pas aussi claires que ça, puis deux, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Parce qu'au début, maintenant, on s'est fait un bon schéma, clac, 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 on a tout compris, mais il y a des pavés dans la mare, et puis malheureusement, c'est Jésus qui les lance. Alors si Jésus lance les pavés dans la mare pour brouiller un petit peu les pistes, alors lisons-les. Alors d'abord en Matthieu 25, puis Matthieu 25, c'est un passage qui est impressionnant, parce que c'est un passage eschatologique, Matthieu 24 et Matthieu 25, donc de la fin des temps, et puis voici ce qu'il a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra verset 31, dans sa gloire avec tous les anges, donc lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, ça veut dire le retour de Jésus sur la terre. D'accord ? On est tous d'accord avec ça ? Donc on est bien branché de la même chose. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Donc on voit qu'il y a une sorte de résurrection ici. Et puis les gens vont pouvoir régner avec Christ pendant le temps du millénium. Et puis, si je reprends le verset 41, pour un petit peu sauter, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, c'est-à-dire la gêne, c'est-à-dire la deuxième mort, qui était préparée pour le diable et pour les anges. » Et verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Alors c'est comme si, dans cette belle chronologie qu'on avait bien mise en place, eh bien, tout d'un coup, Jésus vient tout changer, puis il va dire, hop, quand je reviendrai, même les méchants, ils vont ressusciter. Puis dans notre tête, on dit, non, mais attends, Jésus, ce n'était pas ce qu'on avait compris. On avait compris qu'il ressuscitait après le millénium, au jugement dernier. Puis là, tu nous dis qu'ils vont ressusciter quand tu reviendras sur la terre, ça veut dire après l'enlèvement et avant le millénium. Donc ça ne va pas. Donc, soit vous restez avec cette interrogation, soit je vous propose de déchirer la page 543 de votre Bible qui correspond à Matthieu 24. Mais il y aura une autre à déchirer, c'est dans Jean 6, où Jésus, encore Jésus, lance un autre pavé dans la mare, au verset 39, où il dira ceci, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire la volonté du Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Alors c'est quoi ce dernier jour, à votre avis ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que c'est ce dernier jour ? Est-ce que c'est le dernier jour de l'Église ? Est-ce que c'est le dernier jour du monde ? Est-ce que c'est le dernier jour de l'humanité, juste avant le jugement dernier ? Tout dépend de ce qu'on en croit. C'est quoi ce dernier jour ? Est-ce que c'est aujourd'hui le dernier jour ? Enfin, tout dépend. Soit c'est la fin de l'Église, donc l'enlèvement, soit c'est la fin du monde, soit c'est le dernier jour terrestre, c'est-à-dire le jour où la terre et le ciel passeront, ça sera le dernier jour. C'est ce qu'on pense, en tout cas c'est ce que les théologiens y pensent. Il n'y aura plus de jour, puisqu'après ça sera l'éternité. Donc on le prend au sens littéral. Mais pourquoi ce ne serait pas le dernier jour de l'Église avant l'enlèvement ? Vous voyez, on est un petit peu compliqué, puis on est vraiment dans la spéculation, où on essaie de dire. La majeure partie des théologiens, moi j'y souscris, pensent que le dernier jour, ça sera vraiment le dernier jour, c'est-à-dire le dernier jour de la création avant l'éternité. Donc on se trouve au jugement dernier. Et puis au jugement dernier, donc bien après le temps du millénium, il est dit, verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Attends Jésus, tu n'as pas dit que tu ressusciterais quand tu reviendrais, mais pas au dernier jour. Alors, qui va ressusciter le dernier jour, si nous on est déjà ressuscité ? Et puis pourtant, moi, je pense avoir la vie éternelle, je pense que je serai ressuscité à l'enlèvement, au retour de Jésus, et puis pas au dernier jour, au temps où il va juger. Donc, et puis si je continue le verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il parle tout le temps au dernier jour, encore au verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc on a un texte, sans ce que Jésus dit, c'est très chronologique, quoi. Les morts en Christ ressuscitent, etc. Et puis après, tout à la fin, les autres. Puis tout d'un coup, Jésus, il vient nous dire en Matthieu 24, paf, c'est à mon retour. Puis en Jean 6, c'est à la fin du monde. Alors là, j'y comprends plus rien. Eh bien, vous savez quoi? Ben, j'y comprends plus rien. Voilà. C'est pas grave, j'y comprends plus rien, parce que c'est pas ça qui m'empêche de croire qu'il va revenir. C'est pas ça qui m'empêche de savoir que je suis déjà ressuscité spirituellement, puis qu'un jour j'ai ressuscité. De toute façon, si c'est pour passer l'éternité, ça sera suffisamment long pour que ce soit 1000 ans ou plus ou 1000 ans ou moins. De toute façon, je n'ai pas trop de soucis. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je trouve super que Jésus ait lancé ses deux pavés dans la mare pour pas qu'on arrête d'être des spécialistes en eschatologie, parce que ça n'existe pas des spécialistes en eschatologie. On est tous des étudiants qui cherchent à tâtonner un petit peu ce que c'est l'eschatologie, parce que personne n'est vraiment au courant de exactement comment Jésus va revenir, ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il y a plusieurs théologies différentes qui font qu'on est tous confrontés à une réalité qui nous dépasse. Et je suis très content que Jésus est venu bousculer mon cours, parce que là, j'y comprends plus rien. Mais j'ai des certitudes, je sais que Jésus est ressuscité. Et je sais qu'on va ressusciter. Que ce soit maintenant ou après, finalement, il va ressusciter. Et je vais ressusciter, et vous allez ressusciter. Puis on ressuscitera ensemble, au moment où Dieu le choisira. Mais c'est évidemment que c'est troublant, d'accord? Parce que ça change complètement notre perception. Finalement, on ne sait plus où on en est. Eh bien, je suis perturbé, je vous le dis, je n'ai pas de réponse. C'est pour ça que je disais qu'on a plus de questions après que de réponses, parce que ça suscite plein de choses. Et puis moi, je ne peux pas tout vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas. Mais que j'essaye d'approcher au mieux cette chronologie au niveau de la mort et des résurrections. Et puis, je ne peux pas aller plus loin dans mon raisonnement. Autrement, je serais malhonnête avec vous si je cachais une partie des choses. Je termine par les jugements, pour vous faire plaisir. Dieu est donc un Dieu de justice. Son trône est fondé sur l'équité, on le chante aussi. Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, au sujet de soit ce qui est bien, soit ce qui est mal. Et puis, dans la Bible, on nous parle de 8 jugements différents. Alors, je vais vous les citer parce que ça sera peut-être un petit peu compliqué à tous les dire. D'abord, il y a le jugement des péchés à la croix, qui est le premier jugement. Ensuite, vous avez le jugement des croyants, auquel on est aussi concerné. Ensuite, en troisième lieu, vous avez le jugement d'Israël. En quatrième lieu, le jugement de Babylone. On trouve ça dans le livre de l'Apocalypse, particulièrement. En cinquième lieu, le jugement de la bête, du faux prophète et de leurs armées. Ça, c'est aussi particulier. Enfin, au sixième point, le jugement des nations. En septième, le jugement de Satan et de ses anges. Et enfin, le jugement dernier. Donc, c'est pas mal. Alors, si on a passé par tous ces jugements, ben, il n'y en a pas un d'entre nous qui va sortir indemne. Heureusement, il n'y en a que trois où on est directement concerné. C'est le jugement des péchés à la croix, le jugement des croyants et enfin le jugement dernier. À la croix, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos péchés ont été jugés en Christ une fois pour toutes. C'est d'ailleurs, 2 Corinthiens 5, 21 qui le dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc on est libéré de nos péchés, et finalement, le jugement qui devait tomber sur nous, tombe sur Jésus. Hein, Jésus est mort pour mes péchés, ou à cause de mes péchés, ou à cause de mon péché, ça dépend de tout de la terminologie qu'on utilise. C'est-à-dire qu'il va payer à ma place pour mes péchés. Donc, et c'est ça qui est important, et en relation d'aide, on a beaucoup de problèmes avec ce genre de chrétiens. Donc, je suis libéré de toute culpabilité par rapport au péché que j'ai fait avant ma conversion. Parfois, on traîne des culpabilités alors que, et le diable rigole, alors qu'on est libéré de toute culpabilité. On a passé en jugement et c'est Christ qui a pris cette culpabilité sur lui, ainsi que la peine qui a découlé du péché, parce que ça fait souffrir, il y a des conséquences. Eh bien, Dieu nous libère aussi de ces conséquences. En vérité, Jésus le dira en Jean 5, 24, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est directement cette dimension des péchés à la croix. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'être jugé à ce niveau-là parce que c'est déjà fait. Et ce jugement, c'était le jour de notre conversion. Ce jugement, on s'est présenté devant Dieu en disant « Je suis coupable » et Dieu a dit « Je vais payer pour toi ». Il existe une vraie histoire dans une peuplade africaine où le roi avait donné l'interdiction à son peuple de voler parce que c'était plus possible. Et il a dit « Celui qui volera aura les deux yeux crevés. » Comme ça, il ne volera plus. Il n'aura plus de possibilité de voir des choses à voler. Et puis, ça se passait bien jusqu'au jour où le fils lui-même du roi a volé. Et puis, c'était la grande question. C'était son fils unique. Qu'est-ce qu'il allait faire? Est-ce qu'il allait crever les deux yeux du roi, du fils du roi, qui allait devenir roi, puis qui allait donner un royaume chaotique, puisqu'avec un roi aveugle, on ne peut pas faire grand-chose. Ou bien il allait déroger à sa loi au risque de créer... une émeute dans son village parce qu'il n'était pas capable d'appliquer les lois, donc il allait destituer, mais il sauvait son fils, mais il perdait sa place. Quoi. Finalement, c'était un grand dilemme. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à sa place. Mais ce roi, il a convoqué le village et puis il a donné sa sentence et il a condamné son fils. Il a condamné le coupable à avoir les deux yeux crevés. Et puis, il a désirait lui-même faire la sentence. Donc, il a pris un couteau et il a commencé par crever l'œil de son fils. Et puis ensuite, il a retourné le couteau contre lui et il s'est crevé le deuxième œil, son œil à lui. Et puis il a dit, voilà, la sentence est accomplie, deux yeux ont été crevés. Et comme ça, il a pu sauver son fils, sauver son royaume. Quelque part, c'est un innocent qui prend le péché de l'autre pour que l'autre puisse avoir une vie digne. C'est ce que Dieu nous a fait aussi. Dieu nous a donné la liberté de pouvoir être sauvés, d'avoir une vie digne, et non pas d'avoir une vie d'aveugle. Je trouve que c'est très très beau l'image. C'est une vraie histoire. Donc le deuxième, c'est le jugement des croyants. C'est là qu'on va peut-être être concerné. Après l'enlèvement, vous savez qu'on va faire les noces, ce sera les noces de l'agneau, on va manger et boire avec Jésus, mais il y aura aussi un tribunal. Et la Bible appelle ceci le tribunal de Christ, on trouve ça dans 2 Corinthiens 5, et Jésus dit, Paul dit, « Et il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc ça veut dire qu'on n'a plus à être jugé par nos péchés à la croix, mais depuis le moment où on va être chrétien, jusqu'au moment de notre mort, on aura commis des actions, soit bonnes, soit mauvaises. Eh bien la Bible, elle nous dit que nous allons passer dans ce deuxième tribunal, qui est le tribunal de Christ, pour être jugés en fonction de ce que l'on aura fait. Donc je ne sais pas si vous l'apprenez, mais en tout cas, c'est un petit peu ça qui va se passer. Et puis, suite à ce jugement, eh bien, soit on va recevoir des récompenses, soit on ne va pas recevoir de récompenses. C'est un petit peu ce que 1 Corinthiens 3 dit. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir prendre les paroles dans le livre dans le Nouveau Testament pour les mettre ensemble, parce qu'il y a tellement de références. Mais ce n'est pas chronologique, puis ce n'est même pas dans un même bloc. Donc c'est comme des morceaux de puzzle un petit peu perdus, ça et là. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, 1 Corinthiens 3, 12, de l'argent, il parle du salut, et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera reconnaître, connaître, parce qu'elle ne se révèle dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Or, l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Par contre, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'au jugement de Christ, celui qui n'aura rien fait, il sera quand même sauvé, sans problème, mais il n'aura pas de récompense. C'est quoi ces récompenses? Eh bien, c'est quoi? Est-ce que c'est, comme les croyances le disent, des fils d'or à ma robe céleste, ou des boules d'or à ma couronne supplémentaire? Parce que je l'entends dans les milieux chrétiens, hein, on croit qu'on sera honoré avec plus d'or, sera une plus belle robe, etc., des ailes plus blanches ou autre, je ne sais pas quoi. La Bible, elle ne parle pas beaucoup de ces récompenses. Par contre, dans la parabole des mines, vous connaissez la parabole des talents. Donc, je rappelle, le talent, c'est une pièce de monnaie qui valait très cher. Il y avait Jésus donne, ou le maître donne à trois personnes 5 talents, 2 talents, 1 talent. Celui qui en a 5, il en fait avoir 5, il en a 10, bravo. Celui qui en a 2, il en fait avoir 2, il en a 4, bravo. Celui qui en a 1, il l'avait caché dans la terre, et puis il n'a pas reçu de récompense. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a été jeté dehors, là où se trouvent les grinçonnements. Et ça, c'est la géhenne, donc c'est vraiment l'enfer, c'est vraiment cette dimension grave, quoi. Donc là, on ne sait pas vraiment où on en est, mais la parabole des mines est intéressante, d'autant plus parce que les mines, c'est aussi une monnaie, et puis la récompense de ces hommes qui ont fait valoir leur mine, c'est étonnamment quelque chose, c'est « prends le gouvernement de 10 villes ». Vous avez déjà lu ça ?« Prends le gouvernement de 5 villes ». Si tiens, est-ce que je vais devenir syndic d'Yverdon, de Mato, d'Orbe, et puis allons-y, soyons fous, de New York et de Pékin, 10 villes au hasard, ou 5 villes. Et en fait, on se rend compte que quand on reviendra sur la Terre, dans le cadre du millénium, ce passage des mines a toute sa raison d'être, c'est pour ça que c'est un passage eschatologique, parce que les théologiens les plus éminents pensent que ces villes seront, après il y aura pas mal de temps de destruction sur la terre pendant ce temps de tribulation, et puis qu'il faudra peut-être reconstruire des choses, et puis que les gens, les chrétiens, auront à gouverner des villes sur la terre, parce qu'on va ressusciter, puis on va revenir sur la terre, c'est des choses. C'est pas un dessin animé ou un truc complètement illusoire que je vous donne ou que j'étais en train de vous mettre des idées qui sont farfelues dans la tête, mais Christ reviendra avec son Église pour y régner pendant 1000 ans sur la terre, et on verra ça dans le livre 22, dans le chapitre 22, 20 à 22 de l'Apocalypse. Mais il y aura la possibilité cette fois-ci de régner sur des villes en fonction des récompenses qu'on aura eues, de ce qu'on aura fait durant notre vivant. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je vous propose peut-être d'y réfléchir un petit peu. Il me reste le dernier, le jugement dernier. Là, on sera aussi être confronté. C'est le jugement d'Apocalypse 20, ce temps de la fin des temps, qui sera la fin d'attente pour tout le monde, pour tous les êtres humains. Après la deuxième résurrection, chacun de ces personnes va comparaître devant Dieu qui va juger selon ses inscriptions et selon ses actions, ou selon ce qu'il y a dans le livre de vie. Et puis, aussi une croyance qui est fausse, c'est nous ne serons pas jugés à ce moment-là. Nous pensons que nous devons attendre le jugement dernier pour être jugés, mais on a déjà été jugés lors du premier jugement, du jugement à la croix, et on va passer outre ce troisième jugement. Donc, ceux qui seront jugés au niveau du jugement dernier, ce seront, je dirais, ceux qui n'auront pas été jugés par le jugement des péchés à la croix, c'est-à-dire tout le monde sauf les chrétiens. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on croit qu'on devra de nouveau passer en jugement, mais non. Mais par contre, ce moment-là, ça sera vraiment la grande bifurcation où tous ceux qui auront été jugés dignes de rester avec Dieu iront pour l'éternité avec lui dans la gloire, tandis que tous ceux qui auront été jugés indignes pour les différentes raisons qu'on a vues jusqu'à présent, eh bien, le résultat sera un lieu qui normalement était réservé au diable et à ses démons, qui est l'enfer, qui est la seconde mort, mais qui n'était pas réservé aux êtres humains parce que Dieu ne voulait pas que les êtres humains soient perdus. Ce que Dieu veut, c'est que tous les êtres humains soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu. Même le libre choix qu'il a donné aux êtres humains fait que certains se détournent de Dieu puis prennent le chemin qui n'est pas celui que Dieu avait prévu pour eux. Et puis, donc, ça sera pour eux cette seconde mort, l'enfer. Donc, et puis, la première, ça sera pour y vivre dans la félicité, hein, dans la gloire éternelle. Donc, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais j'en parlerai les prochaines fois. Et puis, pour les autres, c'est pour une souffrance éternelle. Et pour eux, ça sera vraiment long, l'éternité. Surtout vers la fin. Mais ça sera vraiment long. Et c'est pour ça que c'est important, nous, en tant que chrétiens, d'être sûr déjà de son salut, et si on est sûr, de se sanctifier toujours plus, hein, puisque c'est notre responsabilité, d'être plus propre dans notre vie chrétienne que la veille, c'est-à-dire de faire un processus de sanctification. Et puis, l'autre chose, c'est de pouvoir dire à notre prochain toute l'importance que c'est d'être sauvé, parce que c'est une importance capitale. Les gens passent des années ou des mois ou des semaines ou des jours à préparer leur voyage, un grand voyage. Je vais partir en Inde, je vais partir en Asie, je vais partir aux États-Unis, je vais partir en Amérique du Sud. Ils se préparent, ils font des visas, ils apprennent les langues, ils font plein de choses, ils prennent des photos, etc. Ils préparent pendant des années ou des mois ou des semaines ce voyage. Et le voyage le plus important, qui est la mort, eh bien, les gens ne le préparent pas. Et c'est pourquoi c'est aussi notre responsabilité de les aider à préparer ce voyage pour que l'issue de cette mort soit la vie éternelle avec Dieu et non pas la damnation éternelle. Bien, on va arrêter là. Je ne sais pas qui doit arrêter. Oui. Et puis si, donc c'est midi. Donc si vous avez des questions, ben, c'est un peu court, mais... Je suis prêt à y répondre. Je ne sais pas.